With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Polydomso. Alors c'est parti.
Au rapport,
c'est parti pour une analyse un petit peu de ce qui s'est passé lors de l'UFC 269 et donc Charles Oliveira qui s'est imposé par soumission au troisième round tout simplement. On n'avait pas eu droit à la réaction immédiate de Sir Polydomso, donc on va déjà commencer par ça. Toi, globalement, le combat, qu'en as-tu pensé?
Et d'abord, on va lancer le générique.
Allez, c'est parti.
Soit.
Le combat que j'en ai pensé, bah déjà c'est un combat, j'ai pris mon pied en le regardant, alors en décalé, mais je me suis préservé le suspense, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux et tout pour pas voir le résultat, je voulais pas me divulgâcher la fin du combat parce que je l'attendais avec impatience. Charles Oliveira m'a fait mentir, mais je suis content qu'il m'ait fait mentir parce que je l'avais dit pendant le prono, moi mon cœur allait pour Oliveira, alors que je suis un énorme fan de Dustin Poirier, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est positif pour la catégorie que ça avance, parce que en réalité, on va pas se mentir, si Dustin Poirier avait gagné, peu importe son règne, peu importe ses victoires, il y aurait toujours eu l'ombre en fait de Khabib qui plane sur lui en fait, et ça aurait qu'on le veuille ou non ôté un peu en légitimité à son règne en fait. Tandis que là, bon, Charles Oliveira, il est frais en fait, il a pas perdu contre Khabib. Il a perdu contre d'autres personnes, mais c'était sa première mouture, en fait. C'était c'est quand il faisait ses gammes, quand il faisait ses armes. Maintenant, on va dire le Oliveira préparé et déterminé, pour le moment, c'est un sans faute qui nous fait. Et là, encore une fois, moi, il m'a impressionné parce que il a pas fait ce que j'attendais qu'il fasse pour gagner, en revanche. Les techniques au corps étaient présentes, mais il les a fait de manière différente. Pour ceux qui avaient regardé l'analyse pré-combat qu'on avait faite, moi je m'étais dit, il faut qu'il évite les échanges en anglaise, et c'est vrai que dans les échanges en anglaise, strictement en anglaise dans le premier round, il était perdant sur ces échanges, on va pas se mentir.
Et mais, nettement pour le coup.
Et nettement, clairement, mais parce que c'est le domaine de Dustin Poirier. Mais en revanche, je disais qu'il y avait une possibilité où il pouvait vraiment tirer son épingle du jeu, c'était à distance, avec les kicks, et notamment les attaques au corps. Et peut-être contraindre Dustin Poirier à venir à lui, à sortir de sa distance pour s'exposer. Mais il n'a pas fait ça, en fait. Il a fait les attaques au corps, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Sa stratégie était différente et elle a fonctionné. C'est ça qui est impressionnant, parce que même s'il perd le premier round, à mon sens, parfois il faut perdre des batailles pour gagner la guerre, en fait. Et honnêtement, sur les échanges du premier round, même s'il va au tapis une fois, même s'il est sonné, il est pas hors du combat.
Mais tu penses pas que c'est un pari risqué, justement, parce que c'est...
Alors, à long terme, je pense que c'est une stratégie qui, de toute façon, n'est pas, faut pas chercher cette stratégie-là pour la santé de ton combattant et de toute façon, à un moment donné, ça s'arrête et ça s'arrête brutalement, généralement. Néanmoins, il est le mieux placé, lui, pour savoir, en fait, jusqu'à où il peut aller pendant ses combats et il semblerait qu'il c'était déjà le cas contre Chandler, qui prennent cette voie-là, en fait. C'est-à-dire que il connaît sa faculté de récupération. Il sait qu'il a une défense au sol qui est telle que les gens vont pas chercher à le finir au sol. Et il commence à avoir un peu peur. Les gens veulent pas vraiment y aller au sol pour le terminer. Donc, il a cet avantage psychologique. Il peut se permettre. En fait, je pense que c'est ça. Il a un confort maintenant où il se dit, je peux me permettre de prendre un knockdown, je peux me permettre de prendre des coups. Un peu comme Tony Ferguson, naguère, avait ce confort-là aussi. Il y a des similitudes, hein, pas dans le style debout ni dans le style au sol, mais dans la philosophie qui dirige leur façon de combattre. Les deux combattants commencent à se ressembler, je trouve. Il y a du Ferguson dans la performance d'Oliveira. Et maintenant, il le sait. Il sait qu'il peut tenir. Et en réalité, les coups comme ça que tu prends au visage, s'ils ne te mettent pas KO et que tu arrives à récupérer, tu les portes moins, sauf si tu as une coupure ou que tu as une blessure, mais si c'est juste que tu es étourdi et que tu es galvanisé ensuite parce que tu reviens dans le combat et tu reprends ta force, tu les endures moins, tu les portes moins que les coups que tu prends au corps en revanche. Et en vrai, le rythme de combat qu'il impose à Poirier, la pression qu'il impose à Poirier sur le premier round, et les échanges et les coups au corps qu'il met, même s'il prend deux coups à la tête pour un coup au corps, en réalité, sur le premier round, il perd ce premier round, mais en vrai, c'était un investissement qui a joué, parce que même si ensuite Poirier a eu des choix, je pense, regrettables en termes de stratégie sur le deuxième round, troisième round, je l'évacue parce que pour moi, c'est un coup parfait qu'a fait Charles Oliveira de prendre le dos. Enfin, tel qu'il l'a fait, c'était un truc, honnêtement, ça aurait pu arriver au deuxième round, ça aurait pu arriver au quatrième. Enfin, c'est un truc, sur le moment du combat, c'est un truc sur lequel tu peux pas vraiment te défendre. Mais néanmoins, je trouve aussi que Dustin Poirier était beaucoup moins agressif et dynamique, parce que tout simplement, je pense que il était déjà entamé en termes de cardio, en fait. Déjà entamé. Pourtant, c'est pas un combattant qui a un mauvais cardio, hein, Dustin Poirier. Il a fait des guerres de 5 rounds. Il a déjà fait ça. C'est juste que, quand tu te fais savater et que tu prends des genoux comme il a pris au corps au premier round, et aussi des front kicks qui sont là encore une fois assez. Qui renvoie un petit peu à ce que faisait Tony Ferguson aussi, ça sape ton énergie, très honnêtement. Donc, une stratégie d'agression à tout prix, tu sais, ça me fait penser au même avec le mec, tu sais, genre, qui fait ça, tu sais, genre, tu n'as pas besoin de défense quand c'est toujours toi qui attaques, tu vois, c'est un peu ça. Parce qu'en termes de défense, les failles sont toujours là. Je pense que ça, c'est un truc qui est évident pour tous ceux qui sont un peu honnêtes quand ils regardent le combat. Ce sera toujours un point, je pense, perfectible pour Charles Oliveira. Il n'est pas dit qu'il ne s'améliore pas à ce niveau-là, mais c'est aussi sa stratégie, en fait. Comme il agresse continuellement, il est obligé de se mettre déjà dans une distance de frappe. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il n'a pas vraiment des mouvements de tête ou de protection qui le mettent à l'abri des contres. Il a pris le pari d'agresser, de prendre en fait l'initiative à chaque fois, ce qui est une bonne stratégie, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui se referment sur eux quand ils sont systématiquement agressés, et il n'y a pas beaucoup de contreurs d'élite. Et là, en plus, là, il en rencontrait un. À mon sens, Dustin Poirier est devenu un contreur d'élite, hein, et il l'a, je pense, désamorcé en partie avec sa stratégie, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il avait vraiment taffé le game plan, sa stratégie de frappe et de saisie en même temps.
Complètement,
et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur ce premier round. Si j'ai un point à mettre en avant, et que peut-être que si vous ne l'avez pas vu et que je peux vous donner, enfin vous orienter vers ça pour que vous appréciez pleinement le combat, et en tant que moi, les gens sont pas savent que j'apprécie particulièrement le striking, je trouve ça super intéressant, parce qu'en termes de striking, je pense pur Poirier peut-être meilleur, mais là, en termes de stratégie de ce qu'il faisait, c'était super intelligent. Il avait en face de lui un mec qui bouge bien, qui utilise bien l'épaule pour se défendre, qui accompagne les coups et qui rentre avec les contres, et en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait par exemple son 1-2. Il laissait son bras, au lieu de ramener son bras arrière en position initiale, il laissait son bras arrière, il venait peser sur la nuque, en fait, de Dustin Poirier. Donc, déjà, ça obstruait le chemin du contre de Dustin Poirier, parce qu'il y avait le bras en travers, si tu veux. Et en plus de ça, ça fatigue Poirier, et ça lui donnait une saisie pour les attaques en genoux. Donc, c'était super intelligent, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'en tactique, ça, c'est un mec qui a bossé, en fait, clairement. Autre chose qui était super intéressante aussi, mais là, c'est plus dans l'idée, c'est pas tellement dans la technique en elle-même, c'est qu'il a tout le temps sollicité Dustin Poirier. Il n'y a jamais eu un moment, dans le premier round, j'entends, parce que c'est vraiment le round le plus intense. Après, c'est des rounds qui se sont passés essentiellement au sol ou en accrochage. Et là, on est moins surpris qu'il domine, si tu veux. Là, c'est plus son domaine, tu vois. Mais debout, je trouve que c'était très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça que je mets plus le projecteur là-dessus. Et en fait, l'idée de tout le temps solliciter un adversaire, de jamais lui laisser l'initiative, ou alors très peu, et de pas lui laisser prendre de temps de repos, de moments où il va prendre sa distance, se réinstaller et tout. Ça, c'est un truc, si t'as la caisse pour le faire, parce que bon, il faut avoir la caisse, hein, pour le faire, c'est comme ça que t'obtiens des finishes, hein, très clairement. Et c'est pour ça que je dis qu'il a un style qui maintenant commence à se rapprocher un peu à celui de Tony Ferguson, dans la philosophie, pas dans les techniques utilisées, mais dans l'objectif, en fait, qui est de tout le temps de solliciter. Et en fait, quelle que soit la distance, que ce soit en boxe anglaise, il avait les coudes, il avait le clinch dont on a parlé, en mi-distance plutôt, et en distance courte, il agressait tout le temps. En longue distance, il envoyait des combinaisons, même si ça touchait pas, il était toujours en fait dangereux, parce que quand on voit en combinaison, c'est difficile de répliquer ou de trouver l'interstice dans la combinaison pour contrer. Et à très longue distance, il y avait ses front kicks qui, à mon avis, ont considérablement payé. Donc pour moi, ouais, c'était une performance impressionnante. Il a fait preuve de maestria dans la stratégie qu'il a mise en place. Après, au sol, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, on savait clairement, on l'avait dit en prono que Dustin Poirier, la team ETT en général, enfin, pour le dire, on va dire, d'une certaine manière, je pense que c'est très efficace contre les gens qui sont, tiers B, en fait, en grappling. Tiers B en lutte. Et après, quand t'es en tiers A ou en vraiment élite, c'est une stratégie qui, à mon avis, commence à vieillir un petit peu. En fait, là, d'ailleurs, ce qu'il faisait contre la cage, Oliveira, pour installer sa projection, ça a payé aussi parce que ça a incroyablement fatigué en fait Dustin Poirier. Donc, ouais, voilà ce que j'en pense. Performance assez, je suis agréablement surpris parce qu'il a mis en place debout. Au sol, c'était attendu qu'il domine. Et alors après, maintenant, ce que j'apprécierais, c'est le prochain combat qu'on va voir, qui sera probablement contre Justin Gaethje. Ce que j'apprécierais, c'est que peut-être il bosse un peu plus sa défense. Et là, si, ben franchement, oui. Si.
Parce que là, c'est peut-être le dernier combat et peut-être le plus dur à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça, il peut être en confiance, hein, parce que là, il a affronté quand même coup sur coup. Michael Chandler, Dustin Poirier, il a passé un round en enfer à chaque fois. Il a réussi à le traverser. Et on peut le dire, dans la catégorie, à l'heure actuelle, Justin Gaethje, c'est peut-être le dernier qui présente ce même danger-là. Avec peut-être une capacité à éteindre un petit peu plus rapidement en un seul coup.
Ouais, à ce niveau-là, parce qu'il y en a sûrement qui peuvent prétendre au titre, c'est peut-être le dernier, parce qu'après on a une garde de grappleurs qui arrive. J'adore Justin Gaethje, hein. Les gens qui nous suivent depuis le début savent que c'est un de mes combattants fétiches, mais honnêtement, j'aimerais bien que Charles Oliveira gagne, parce que j'ai envie de voir Charles Oliveira contre les grappleurs, quoi.
Contre Islam. Ce serait
contre
beau.
Contre Islam, ça. ou contre Benay Dariush, hein.
Oui, bien sûr.
C'est le truc. Mais c'est vrai que ça, c'est une opposition que j'ai vraiment envie de voir. Tandis que pour moi, là, honnêtement, Oliveira a prouvé qu'il battait honnêtement, Dustin Poirier, c'est un des meilleurs strikers de toutes catégories confondues, hein. Je le mets à ce niveau-là quand même. C'est un gars qui a surclassé Max Holloway, qui a battu par deux fois Conor McGregor, quoi qu'on en dise, qui avait trouvé en fait une solution comment installer son striking. Il s'était réinventé. Et moi, je trouve que Charles Oliveira a fait une démonstration contre lui. Donc, il a battu un counter puncher et un striker assez sophistiqué. Il a battu un striker explosif avec du pouvoir de KO en la personne de Michael Chandler. Bon, Justin Gaethje, c'est encore autre chose parce que c'est un brawler raffiné, quoi. Et ça, c'est encore autre chose. Mais honnêtement, je suis presque impatient, tu vois, qu'il passe carrément à un autre type de difficulté parce que c'est impressionnant ce qu'il
démontre. Pour toi, il va passer l'étape Justin Gaethje?
Non, je dis que je suis impatient. J'aimerais qu'il le fasse, en fait. Après, Justin Gaethje. Alors le problème que j'ai, bon, si on peut s'avancer un peu sur le match-up,
bien sûr.
Honnêtement, Justin Gaethje a montré qu'il pouvait avoir du sang-froid quand on lui mettait la pression exclusivement en striking, c'est-à-dire le combat contre Tony Ferguson l'avait démontré. En revanche, après c'était face à Khabib, donc c'est.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est compliqué parce que Khabib, il est unique. Donc, ça sert à rien d'essayer de comparer parce que quoi qu'on en dise, Charles Oliveira, au sol, il est élite. Et sur son timing de takedown, il commence à clairement s'améliorer. Enfin, très honnêtement, le passage sous la garde et la prise de dos contre Dustin Poirier, c'était impressionnant, hein, la vitesse à laquelle c'est allé. Mais après, je sais pas s'il a la technique en lutte en enchaînement est suffisante pour faire douter Gaethje, qui quand même, Gaethje, bon, même si c'est un combat qu'il a très nettement perdu contre Khabib, a défendu quand même plusieurs amenées au sol, avait la bonne méthodologie. Je pense en revanche qu'il était en stress total et il s'est écroulé en fait.
T'es en sur-régime, ouais, complètement.
Ouais, en termes d'énergie, je pense qu'il a. C'était vraiment visible pour le coup quand tu voyais le combat. Honnêtement, tu te disais s'il n'éteint pas Khabib, c'est une question de temps en fait, avant qu'il cède, parce que là, il peut pas en fait continuer à ce rythme-là, quasiment en apnée. de tout le temps bouger partout, c'est pas possible, c'est, ça lui ressemble pas en fait.
Et puis aussi autoroute vers la soumission chaque fois qu'il était au sol.
Et alors voilà, alors ça c'est surtout ça qui me dit que si jamais en fait Gaethje n'arrive pas à éteindre vraiment ou en tout cas à faire vraiment douter Oliveira, et a priori il n'y a pas de raison qu'il le fasse douter parce que Oliveira maintenant il a une telle confiance en lui que même s'il prend des énormes coups il continuera à aller de l'avant. Je pense en revanche que s'il va aller au sol, je reste persuadé que c'est l'énorme point faible de Justin Gaethje. C'est vraiment c'était Khabib, mais il y a des trucs qui sont pas qui sont, je vais pas dire pas excusables, mais la façon dont Khabib passait de monte à ensuite triangle et tout, normalement tu passes pas aussi rapidement quelqu'un qui est censé avoir le niveau qu'il est censé avoir au sol, parce qu'on nous avait dit qu'il était très très bon au sol. Moi j'avais toujours eu un doute, hein, il y a un monde en fait entre ce que tu montres à la salle et ce que tu montres dans la cage ou sur le ring à l'heure dite, et peut-être qu'il est très très bon quand il s'entraîne, mais peut-être que c'est parce qu'en fait il n'y a pas de secret, hein, pour que l'épée soit affûtée, faut l'utiliser. Enfin, c'est une très mauvaise métaphore que j'utilise. Je ne suis pas Rust, désolé, excusez-moi. Mais non, mais il faut, pour qu'un skill fonctionne, il faut l'utiliser, faut le mettre en situation dans la phase de stress face à un adversaire qui veut pas te laisser faire. En fait, ça marche pas si tu le travailles que contre des partenaires, a fortiori des partenaires qui vont être un peu sympas avec toi, tu vois, clairement. Et là,
et puis il avait été sauvé par la cloche, hein, au premier round aussi.
Première fois, il allait être soumis, hein, très clairement, et deuxième fois, ça n'a pas duré longtemps, quoi. L'échange au sol n'a pas duré très très longtemps, et je pense que s'il se retrouve dans une situation similaire face à Oliveira, je pense que ça ne durera pas longtemps non plus. J'ai pas de raison de penser qu'il s'est amélioré entre les deux, et c'est le monde d'Oliveira, la vitesse à laquelle il va, la fluidité, l'intelligence qu'il a par rapport à ça, c'est énorme. Donc c'est pour ça que, pour le coup, j'aurais tendance à mettre Oliveira favori face à Justin Gaethje, parce que il y a une telle confiance, il y a une telle et puis même sa stratégie maintenant de mêler agression permanente et mise au sol, je pense que ça peut vraiment fonctionner contre Justin Gaethje. Ça n'avait pas fonctionné du côté de Tony Ferguson parce que Tony Ferguson s'était borné vraiment pendant plusieurs rounds, je pense, à essayer d'échanger en striking, et il avait perdu en fait. Enfin, Tony Ferguson n'a jamais été réputé pour ses amener au sol. En tout cas, en explosion de lutte, il avait des techniques de prise de nuque, mmh, et de, c'est pas vraiment de projection, mais de menace.
C'était
de soumission.
Dans le flow, ouais.
Dans le flow, tu vois, quand il t'agresse et que tu te recroquevilles, il avait, je pense à Lando Venata, comme c'est un match qui montre bien cette méthode-là, où sur les esquives rotatives de Lando Venata, il venait menacer en darse ou en guillotine, et puis de ça, en fait, il t'amenait au sol avec son poids de corps et tout, donc il avait ça, mais c'était des techniques qu'il utilisait de moins en moins, qu'il n'avait pas utilisé contre Pettis, qu'il n'avait pas utilisé contre Cerrone, et donc du coup, encore une fois, un skill que tu n'utilises pas, bah tu le délaisses progressivement, et donc il avait plus cette arme-là face à Gaethje, et c'est pour ça que Gaethje, pour le coup, là il avait pu faire sa stratégie, tu sais, de mouvement et de prendre le temps de placer ses contres et de boxer en fait avec Tony Ferguson et de vraiment de le mettre en pièces, quoi. C'était le truc. Et là, je pense que ce sera plus compliqué pour Gaethje d'installer ça face à un adversaire qui, bah, ce qu'il a montré honnêtement, d'attaquer, d'accrocher, de chercher la mise au sol, quand t'es contre la cage, de te bloquer contre la cage, c'est un paquet qui est complet. Et je sais pas si Justin Gaethje, enfin, confronté à ce type de pression, à ce type bien spécifique de pression, et pas la seule pression en striking, s'il va pas nous refaire une redite de ce qu'il a fait contre Khabib, tout en sachant que bah, Khabib a quand même pris des gros coups dans le combat contre Gaethje aussi.
Oui, vois, on a beau. Et les leg kicks,
alors ça aussi, ça c'est un point aussi. Bon, après, je pense que c'était la consigne de Dustin Poirier qui avait dû se dire pas de kick contre Oliveira parce qu'il peut m'amener au sol et c'est dangereux. Mais je pense aussi que c'est une des raisons qui a précipité sa fin. Faut pas laisser en fait. J'étais d'accord avec votre analyse quand vous dites que c'était un choix très discutable de laisser pendant tout le second round Oliveira dominer debout, et qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'il prenne un risque, parce que tu peux pas installer un adversaire dans un confort mental comme celui-là, de dire bah mec vas-y, en fait c'est à distance, je fais rien. Là je fais rien, j'attends qu'on nous remette en position, c'est vraiment pas bon. Faut, même pour la forme, faut donner des coups, faut essayer, tu vois, de faire quelque chose pour que le mec se dise pas bon là je suis tranquille, je prends mon souffle, je reprends mon énergie. Bah c'est pareil quand t'es contre un kicker, si le mec se dit bah en fait quand je suis à longue distance je peux frapper, je risque rien. Pareil, là, tu lui donnes en fait une zone de confort. Et faut rendre les choses compliquées. Donc, s'il kick, même si lui te fait beaucoup plus mal et que son kick est plus propre et que toi ton kick il est dégueulasse et que tu vas le toucher à moitié, mais vaut mieux le faire en fait. Franchement, vaut mieux le faire parce que le mec va se dire ah c'est chiant, je peux pas vraiment échanger comme je veux. Et puis ça va ouvrir en fait d'autres perspectives parce qu'après il va réagir par rapport à ça et sa réaction par rapport à ça, il n'est pas dit qu'elle n'ouvre pas une autre fenêtre sur une autre technique et tout, une autre modalité d'expression. Et en réalité, je pense que c'est ça, le fait de s'être borné à de l'anglaise et aussi que du striking à la tête. Bon, ça c'est un autre point. Je pense qu'il voulait le mettre KO parce qu'en fait, aussi,
56 frappes de nez quand même au premier round à la tête. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Et en plus, c'est des frappes de Stine Poirier. Donc, je pense qu'il devait se dire, allez, encore une et c'est bon, encore une et c'est bon. On soulignera jamais assez en fait le fait que bah tu sais quand t'as quelqu'un qui t'attaque en pression tout le temps et qui a un énorme cardio et qui va en fait faire du marathon avec toi, c'est pas plus mal d'essayer de le mettre à niveau. Surtout si lui t'agresse au corps, je pense que c'est peut-être là aussi où il a raté quelque chose de Stine Poirier. Peut-être que des après il en fait pas souvent. Hein, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour ça. Il a pas une technique de body punch particulièrement développée, mais peut-être que c'était une piste. Éventuellement qu'il aurait pu développer sur le premier round. Mais après, je pense qu'honnêtement, il a été pris de court. Je pense qu'il s'attendait pas en fait à une telle agression. Honnêtement, hein, et ça c'est un point qui avait déjà été exploité par Khabib. C'est intéressant, c'est que Dustin Poirier il aime bien. C'est pas un diesel comme j'ai dit dans le prono, c'est que il très rapidement il rentre dans l'activité, il échange et tout. Il a un bon rythme de base, mais en revanche il cède assez rapidement du terrain. En fait, il aime bien, tu vois, genre faire venir l'adversaire à lui, le laisser s'exprimer et puis contrer. En fait, c'est un peu. Il a fait ça contre Conor McGregor, ça a marché contre Conor McGregor. Il a fait ça contre Khabib, ça n'a pas marché parce que Khabib pouvait le pousser contre la cage et là c'était terminé. Et là il l'a fait aussi contre Oliveira, parce que honnêtement sur le début du round 1, 2 et 3, il se met quasiment dos à la cage en fait de Stine Poirier. Et ça c'est pareil, c'est un choix je pense discutable stratégiquement parlant. Mais encore une fois, c'est parce qu'il a subi la pression directement et je pense qu'il s'attendait pas honnêtement à une telle agressivité et une telle confiance de la part d'Oliveira.
Donc là ça y est, Charles Oliveira qui confirme son titre. Est-ce que pour toi finalement là le plus dur pour lui ça va être Justin Gaethje ou le vainqueur d'Islam Makhachev contre Beny Dariush?
Honnêtement, je pense que le vrai test. Après, il suffit que je dise ça pour qu'il se fasse éteindre par Gaethje, tu vois. C'était classique, ça. Honnêtement.
Ce qui est possible, on parle de quelqu'un qui l'a à chaque fois pris des notes d'armes lors de ses précédents combats.
C'est ça, c'est clair. Il peut très bien se faire éteindre par Gaethje, très honnêtement. Mais je pense qu'en termes d'opportunité, de contrôle du combat, je vois plus facilement avoir un contrôle du combat contre Gaethje. Et peut-être éventuellement se faire éteindre, mais tu sais contrôler le combat jusqu'à ce qu'il se fasse éteindre. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, ce sera une confrontation qui sera moins dure pour lui. Même s'il la perd, tu vois, c'est là où c'est paradoxal. De dire, il a perdu, d'accord, mais il peut très bien, tu vois, dans le rythme de combat, je le vois très bien. C'est comme la possession de balle, si tu veux, je le vois très bien dominer le rythme de combat. Et peut-être, bon, éventuellement, il se fera peut-être éteindre, mais ou alors il gagnera, tu vois. C'est dans la façon dont je vois les choses, ce sera un coup d'éclat, quoi. Ce sera moins un truc dans le grinding, dans la difficulté et tout. Tandis que contre Makhachev ou Dariush, c'est des gens qui vont lui contester la suprématie au sol et qui vont lui contester la suprématie en lutte. Et donc la lutte, le combat sera forcément plus difficile, je pense. Plus dans la, même s'il gagne peut-être par décision tranquille ou par soumission à la fin, ce sera une lutte permanente en fait. Il pourra pas installer son jeu comme il veut l'installer contre ces gens-là. Il n'est pas dit d'ailleurs en plus que par exemple Islam Makhachev, il faut pas l'oublier, mais Islam a déjà rencontré d'excellents grappleurs aussi, hein, de très bon niveau, hein, Saroukian ou Davy Ramos qui est un très bon JJB. Il a quand même contrôlé ces mecs-là. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il les a contrôlés. Et bon, contre Saroukian c'était disputé, mais il n'y avait pas de doute quant à l'issue du combat. Contre Davy Ramos encore plus. Peut-être qu'on va être surpris, peut-être que justement ça va être encore une fois un révélateur et on va se dire ah merde, en fait on pensait que le niveau au sol lui permettait, mais en fait non, pas vraiment, et il peut très bien, il y a moyen. Donc je pense que en termes de lutte pure en dépit du résultat, en fait, ce que je veux dire, parce que c'est vrai qu'un KO, ça peut interrompre tout, tu vois. En dépit du résultat, le combat éventuellement le plus dur, ce sera contre ces deux mecs-là, Dariush ou Islam Makhachev. Après, le combat peut-être le plus risqué, en, tu sais, genre en retournement de situation, ce sera contre Gaethje. Mais je le donne plus facilement favori contre Gaethje, si vous voulez mon humble avis, que contre Islam Makhachev ou Benil Dariush.
Bah voilà, en tout cas seul l'avenir nous le dira, mon cher Polydomso. Vous savez, Big Shada, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Oh là là, voilà. Et puis voilà, on se retrouve très très vite, Polydomso. See ya.
Yes, see you.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.